En quoi consiste la mission de la nouvelle unité spéciale du CGRI? L'Iran est de plus en plus préoccupé par les menaces potentielles pesant sur ses installations nucléaires et ses scientifiques et prévoit de mettre en place une force de sécurité spéciale pour les protéger. On rapportait cette semaine les médias de la République islamique. La nouvelle unité sera placée sous le contrôle de l'unité de renseignement des gardiens de la révolution islamique. Baptisé commandement de la défense des installations nucléaires, elle sera intégrée au renseignement iranien. Son objectif sera de protéger les installations sensibles contre le sabotage et les hauts responsables liés au programme nucléaire contre les assassinats par Israël et d'autres éléments hostiles, a-t-il été précisé. De nombreux sabotages et assassinats non revendiqués ont visé des installations nucléaires et des scientifiques iraniens depuis 2010. Le dernier incident de ce type remonte à novembre 2020 avec l'assassinat de celui qui était considéré comme le père fondateur du nucléaire iranien, Mohsen Farizadeh. La République islamique accuse l'entité sioniste et ses services de renseignement d'être derrière chacun de ces actes. Sanctions anti-russes, le drame iranien continue pour Renault. Guerre en Ukraine, rester ou quitter la Russie, le dilemme des entreprises françaises. Quelqu'un aurait jeté un sort sur les sociétés Renault. Ce mercredi 23 mars, devant le Parlement français, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté les entreprises françaises implantées en Russie à cesser de soutenir la machine de guerre russe et à quitter ce pays. Explicite, il a cité les noms de Renault, Auchan et Leroy Merlin. Ce dernier a répondu quelques heures plus tard qu'une fermeture serait considérée comme une faillite préméditée, ouvrant la voie à une expropriation qui renforcerait les moyens financiers de la Russie. Ne jamais oublier que les sanctions sont une arme à double tranchant. Elles peuvent permettre à l'adversaire de sortir plus fort, rappelle Philippe Gréau. Ce consultant spécialiste de l'élevage accompagne des entreprises en Ukraine et en Russie depuis plusieurs années. Quand la Russie a pris le contrôle de la Crimée, l'Europe a mis un embargo sur les exportations vers la Russie qui a décidé d'investir massivement dans son agriculture et la constitution d'élevage géant. Elle est sortie renforcée de ce bras de fer, rappelle-t-il. Cela s'est déjà produit en Iran, lorsque l'usine Renault a dû fermer ses portes en Iran alors qu'elle était en passe de devenir la plaque tournante du marché automobile pour le Moyen-Orient dans le pays. Et comme tout le monde le sait, cette fermeture était due aux sanctions extraterritoriales américaines, ajoutant à la diplomatie polémique d'hommes politiques français prétendument libéraux qui n'ont pas réussi à s'émanciper du joug du couple sioniste américain sous Emmanuel Macron. Les sanctions américaines qui touchent directement les couches les plus précaires de la société française et entraînant donc des licenciements massifs injustes et injustifiables et font tomber les entreprises françaises les unes après les autres aux mains des plus offrants de l'oligarchie sioniste ou arabe. Et ceux qui osent résister sont accusés de comploter avec les ennemis de la nation et les usines fondées par lui, Renault, sont emblématiques dans cette histoire puisque son fondateur mort en prison sans procès ni enquête pour avoir voyagé en Allemagne où il a rencontré Hitler avant qu'il ne devienne chancelier. Bref, pour certaines entreprises françaises comme Renault ou Total et Energies, le marché russe est stratégique. Le quitter, c'est s'exposer à des pertes considérables. Les entreprises françaises présentes sur le marché russe, Total Energies, Renault Auchan, Leroy Merlin, Bondel et Saint-Gobain, Air Liquide, Accor Engie, Société Générale, et beaucoup d'autres encore sont confrontés à un véritable dilemme. Elles doivent veiller à être en conformité avec les sanctions prises et bien réfléchir avant de procéder à des choix douloureux. Se retirer du marché russe, c'est prendre le risque de voir Moscou confisquer les avoirs de l'entreprise détenue en Russie, analyse Tatina Kastu-Eva Jean, directrice du Centre Russie à l'IFRI, Institut français des relations internationales. Premier constat, les entreprises présentes en Russie lâcheront du lest pour faire baisser la pression et préserver la réputation de leur marque. C'est le cas de Nestlé. Le groupe Yves Rocher, actif dans les produits de beauté, s'en tient à une déclaration faite le 16 mars et n'a pas souhaité repréciser sa politique. Il est de notre devoir de prendre soin de nos 630 employés, ainsi que des 2500 collaborateurs de nos franchises qui travaillent en Russie et qui ne sont pas responsables de la situation actuelle, indiquant avoir suspendu tout investissement et toute présence médiatique. L'heure est à la prudence, les mails restent le plus souvent sans réponse, personne ne veut insulter l'avenir. Mais quelle est la stratégie de la Russie pour Renault et Total Energy? La Russie représente 5% de la trésorerie de Total Energy. Avtovaz, premier constructeur automobile russe contrôlé par Renault, représentait l'an dernier la moitié du résultat opérationnel courant de la division automobile du groupe français. Plus cocasse, certains investisseurs siègent aux côtés de l'oligarque sur la liste des sanctions. Partir, c'est redonner du capital aux Russes qui reprendront le contrôle de ses actifs, observe Philippe Créau, qui cite le cas des 500 avions des compagnies russes Aeroflot et S7 Airlines. Ils sont en location et ont été repartis en Russie. Les loueurs ont jusqu'au 28 mars pour les récupérer. Passé cette date, ils ne leur appartiendront plus, sans compter que ces sanctions pourraient renforcer l'axe Russie-Chine. Mais le vrai sujet reste celui de l'achat de gaz russe par les Européens, car il contribue au financement de l'effort de guerre russe à hauteur de 2850 millions de dollars par jour selon l'ONG Transport et Environnement. Et personne ne veut prendre le risque de se priver de cette énergie à court terme. Mais pour la petite histoire, l'Urono, le 21 février 1935, sur son initiative, il rencontre à Berlin Adolf Hitler pendant 2 heures à la chancellerie du Reich. Après une brève rencontre protocolaire sur le stand de Renault au salon de l'automobile de Berlin. À la fin des années 1990, après de minutieuses recherches dans les archives allemandes, le professeur Patrick Friedensen a retrouvé la trace du compte rendu de l'entretien entre Louis Renault et Adolf Hitler, daté du jeudi 21 février 1935. Proposé par l'ambassadeur de France à Berlin, André-François Poncet, la rencontre eut lieu à la chancellerie du Reich et dura sans doute 2 heures. L'Indonésie invite au prochain G20 la Russie, que les États-Unis envisagent d'en exclure. Les délégués se réunissent lors de la cérémonie d'ouverture de la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G20 à Jakarta, en Indonésie, le 17 février 2022. L'ambassadrice de Russie en Indonésie a confirmé que Jakarta avait invité Vladimir Poutine au prochain sommet du G20 à Bali. Cette annonce survient alors que les États-Unis étudient une éventuelle exclusion de la Russie du forum intergouvernemental. Comme le rapporte l'AFP, l'ambassadrice de Russie en Indonésie, Lyudmila Vorobieva, a indiqué que Vladimir Poutine pourrait participer au sommet du G20 qui doit se tenir en novembre dans le pays. La diplomate a en tout cas confirmé que Jakarta avait invité le président russe au sommet des chefs d'État et de gouvernement prévu en novembre prochain à Bali. Mais jusqu'à présent, l'intention est qu'il vienne, a-t-elle indiqué à des journalistes le 23 mars. La diplomate a également fustigé les velléités occidentales d'exclure la Russie de plusieurs organisations internationales, une réaction disproportionnée selon elle. Moscou salue ainsi la position ferme de l'Indonésie quant à sa volonté d'inviter la Russie au prochain G20. Nous espérons vraiment que le gouvernement indonésien ne va pas céder à cette pression horrible qui est exercée, non pas seulement sur l'Indonésie, mais sur de nombreux pays dans le monde, par les Occidentaux, a-t-elle affirmé avant de préciser que l'expulsion de la Russie de ce type de forum n'aidera pas à résoudre les problèmes économiques. Au contraire, sans la Russie, ce sera difficile. Cette annonce survient alors que les les États-Unis ont annoncé qu'ils avaient l'intention de prochainement consulter leurs alliés sur une possible exclusion de la Russie de certaines organisations internationales, dont le G20, qui regroupe les 20 plus grandes économies mondiales. Le 22 mars, le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, Jake Sullivan, avait évoqué une possible exclusion de la Russie de certaines instances internationales, telles que le G20. Il a néanmoins précisé que Washington souhaitait d'abord consulter ses alliés. Sur la question du G20, je dirais simplement ceci. Nous pensons que la Russie ne peut pas faire comme si de rien n'était dans les institutions internationales et dans la communauté internationale, a-t-il affirmé des propos repris par l'AFP. Sur la question du G20, je dirais simplement ceci. Nous pensons que la Russie ne peut faire comme si de rien n'était dans les institutions internationales et dans la communauté internationale, a-t-il affirmé des propos repris par l'AFP. Le Kremlin dénonce la pression diplomatique américaine sur les autres membres du G20. Moscou a rapidement réagi aux propos du responsable américain. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a exposé lors d'une point de presse les manœuvres diplomatiques américaines. Le fait que, en termes d'opposition globale à notre pays, les États-Unis exercent déjà une pression diplomatique sur tous les pays est bien connu de tous, a-t-il déclaré. Le porte-parole du Kremlin a également souhaité rappeler que le G20 est un format multipartite, où différents points de vue s'expriment malgré les pressions américaines. Dmitri Peskov se dit confiant dans la capacité de certains États à faire leur propre choix. Comme nous le voyons, un certain nombre d'États. Le porte-parole du Kremlin a également souhaité rappeler que le G20 est un format multipartite où différents points de vue s'expriment. Malgré les pressions américaines, Dmitri Peskov se dit confiant dans la capacité de certains États à faire leur propre choix. Comme nous le voyons, un certain nombre d'États choisissent de s'en tenir à leur point de vue indépendant et souverain, a-t-il expliqué. Plusieurs responsables indonésiens interrogés par l'AFP ont indiqué que lors du sommet de Plusieurs responsables indonésiens interrogés par l'AFP ont indiqué que lors du sommet, la question de l'intervention militaire russe en Ukraine sera au maximum écartée du programme des discussions. La Russie a déjà été suspendue indéfiniment du G8 après le rattachement par voie référendaire de la Crimée en 2014. Le groupe des plus grands pays industrialisés est revenu ensuite au format du G7. Les systèmes Patriot supplémentaires déployés en Europe sont-ils capables de lancer des frappes de missiles tactiques? L'OTAN a rapproché ces systèmes de missiles de 500 km des frontières russes. Le déploiement sur le territoire de la Slovaquie des systèmes MIM 4 Patriot PAC 3, précédemment transférés par l'Allemagne et les Pays-Bas, n'est pas du tout lié à la prétendue couverture du territoire des pays européens, mais au déplacement des systèmes de missiles aussi près que possible de frontières russes. La raison en est que les systèmes MIM 4 Patriot PAC 3, en plus de remplir leur tâche principale d'interception de cibles aériennes, sont également capables de lancer des missiles de croisière tactique. À l'heure actuelle, on sait que les complexes arrivés en Slovaquie sont situés au moins officiellement sur la base aérienne de Slack. Cependant, compte tenu des données non officielles, les complexes peuvent également être placés dans la partie ouest de la Slovaquie, à environ 250 km au plus près des frontières russes. Les pays de l'OTAN, tels que les Pays-Bas et l'Allemagne, n'ont pas encore commenté leur décision de transférer leur système MIM 4 Patriot PAC 3 en Slovaquie. Mais on a appris plutôt que le ministère slovaque de la Défense avait l'intention de transférer en Ukraine une division de S-300 systèmes de missiles anti-aériens sous réserve de livraison pour armer le pays avec l'équivalent dans leur fiabilité et leur efficacité des systèmes de défense aérienne. Poutine exige que l'Union européenne paie son gaz en rouble certes. Washington a décrété un embargo sur le gaz et le pétrole russe. Mais ces derniers continuent de couler à flot vers l'Europe. La croissance des prix du pétrole et du gaz s'est accélérée après la déclaration d'aujourd'hui du président de la Russie. Les prix de l'énergie en Europe et dans le monde ont de nouveau augmenté après la déclaration d'aujourd'hui du président russe Vladimir Poutine et la croissance s'est accélérée. Comme Voneyoy Obserny l'a déjà signalé, Vladimir Poutine a annoncé aujourd'hui une instruction de transférer les règlements mutuels avec les acheteurs de gaz russe en rouble. Le chef de l'État russe a souligné que nous ne parlons que des pays qui figuraient auparavant sur la liste des pays hostiles. Parmi ceux-ci figurent les États-Unis, les pays de l'UE, le Japon, la Grande-Bretagne, la Suisse et un certain nombre d'autres. Depuis la déclaration correspondante du président russe, le prix du gaz en Europe a augmenté de 250 $. Le matin du 23 mars, 1000 mètres cubes de gaz sur place se négociaient environ 1100 $, mais maintenant le prix a dépassé 1350 $. Bien sûr, ces chiffres sont loin du record des derniers jours de février lorsque le gaz sur le marché européen s'échangeait à 3500 $ ou plus, mais néanmoins les prix sont extrêmement élevés. Dans ce contexte, la barre psychologique des 120 $ le baril a été dépassée par les contrats à terme sur le pétrole Brent pour le mois de mai. Plus récemment, il est tombé en dessus de 100 $. Le taux de change de la monnaie américaine a chuté de près de 4,5 roubles, passant sous les 100 roubles pour la première fois depuis le 24 février. À l'heure actuelle, il se négocie à environ 99,3 roubles pour 1 $. Le taux de change de la monnaie européenne est tombé en dessous de 108 roubles. La chute n'est pas aussi importante que celle du dollar, moins d'un rouble. Les experts attribuent cela au fait que la décision du président de la Fédération de Russie frappe principalement le soir, disant pétrodollar, car désormais les pays figurant sur la liste des pays hostiles achetant du pétrole à la Russie devront soit refuser des achats, soit ouvrir des comptes en rouble. La première option pour nombre de pays peut conduire à l'effondrement de l'économie à court terme.